Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast Le Fundamental Talk, un rendez-vous dédié à la santé mentale. Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie, des maladies mal comprises et encore taboues en France. Alors pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre, un chercheur ou un patient. Grâce à vos dons, avec le soutien de la Fondation Fondamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies, leurs facteurs de risque et de déstigmatiser les malades. Aujourd'hui, nous recevons Florent Chapelle, 53 ans, dirigeant de l'agence de communication Acanto et militant pour Autisme Info Service. Avec lui, nous allons évoquer l'autisme. Florent Chapelle, bonjour.
Bonjour.
Alors, pourriez-vous nous parler, s'il vous plaît, un peu de votre fils ?
Oh, on commence par mon grand garçon de 18 ans, Galad. Alors, Galad, c'est intéressant, effectivement, c'est par lui que tout a commencé. J'ai eu le diagnostic d'autisme de Galad il y a 15 ans. Il avait alors à peine 3 ans. Ce n'était pas ce qu'on appelle un diagnostic tardif dans l'autisme. Hein. Ça peut se faire bien sûr plus tôt, ça peut se faire à un an et demi, 2 ans. Mais en France, la moyenne, c'est plutôt 5 à 7 ans. Donc on a eu un diagnostic plutôt rapide à 3 ans et on s'est rendu compte qu'il était à l'époque autiste. Il l'est toujours, hein. On reste autiste toute sa vie. Et qu'il avait plutôt un autisme, ce qu'on appelle sévère. Sur les échelles, il était assez haut. Hein. On arrive à évaluer le niveau d'autisme de l'enfant et il l'était. Et puis, 15 ans plus tard, il l'est toujours, mais il est ce qu'on appelle un autisme modéré. Il a maintenant toujours un retard mental, malheureusement. Hein. Ça, on ne peut pas arriver à le compenser, mais les habiletés sociales, les troubles du comportement ont baissé. Aujourd'hui, c'est un enfant épanoui, heureux. Qui vit toujours avec ses parents à 18 ans, ce qui est somme toute assez classique, et qui a des amis, des relations sociales via les réseaux, va à l'école, alors pas ordinaire, hein, ce sont des écoles adaptées, etc., mais s'approche du bac, si on peut dire. En tout cas, il est au lycée et il a passé son permis de conduire. Donc, il grandit, ce garçon, il grandit.
À quel moment avez-vous remarqué les premiers symptômes et quels étaient-ils ?
C'est une très bonne question. Alors nous, en tant que parents, c'était notre premier enfant, donc on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Et quand on demandait autour de nous, des gens qui voyaient l'enfant qu'une heure, nous disaient « Oh, bah, il fait des petites crises, il se roule par terre, il se mordit les poignets, c'est pas grave, c'est normal, il est comme son papa, il a du caractère, ok, super. » Alors non, en fait, c'était pas super, il ne pointait pas du doigt, il y avait des écolalies, donc des répétitions de petits mots, de petits gazouillements, etc. Et il avait du mal aussi à déglutir. Enfin, il y avait plein de signes qui n'auraient pas dû tromper. Et les signes aujourd'hui sur le site Autisme Info Service, vous les avez, hein, parce qu'on va en parler tout à l'heure de la plateforme dont je m'occupe. Et on est aujourd'hui capable de dépister un enfant vers un an et demi, assez facilement. Hein. Alors, ce n'est pas ce qu'on appelle un diagnostic définitif. Le diagnostic définitif, on va dire qu'on va vraiment le poser à 7 ans, hein, quand le développement, la courbe du développement se stabilise. Mais de toute façon, même à 7 ans, on ne peut pas non plus dire que c'est fini dans le développement de l'enfant. On grandit encore toute sa vie, hein, on gagne des neurones toute sa vie. Et donc, on peut arriver à faire encore grandir l'enfant et le faire évoluer. Donc nous, c'est 2 ans et demi où vraiment là, ça n'allait plus du tout. Et où on a décidé de se diriger vers un hôpital. Et puis on est rentré dans un processus un peu long, mais qui nous a permis d'avoir un diagnostic consolidé.
Comment s'est déroulé son parcours médical, y compris le dépistage de l'autisme et puis sa prise en charge ensuite ?
Il s'est passé de manière assez classique. Hein. On commence par un pédiatre qui vous dit oui, il y a quelque chose, puis avoir un psychologue qui vous dit oui, il y a quelque chose. Alors en l'occurrence, nous, le pédiatre n'a rien vu, le psychologue n'a rien vu, mais on a continué à persévérer, on a fini en CMP. Ce sont des centres médico-psychologiques. Et là, dans ce centre, on nous a dit qu'effectivement, il y avait un pépin. Et là, il avait 3 ans. Donc, on s'est dirigé vers l'hôpital. Où là, bon, on n'est pas tombé sur les bons. Hein. On est tombé sur des gens qui nous ont demandé si la mère aimait l'enfant et s'il n'y avait pas. Donc, voilà, on est tombé sur un nid de psychanalyse. Donc, on s'en est écarté. Et on est, à ce moment-là, allé à Robert Debré. Et le professeur Delorme a posé le diagnostic dans l'année de ses 3 ans, nous a dit qu'il fallait faire une approche éducative et comportementale. Donc on est allé vers des psychologues, une association qui se crée. Et notre enfant est pris en charge depuis 15 ans dans cette association. Ils l'ont emmené de rien à tout, parce qu'ils l'ont emmené de l'isolement, de cris à la parole. Aujourd'hui, il parle, il est même tellement bavard. Hier soir, il avait un copain au téléphone, il était dans le salon, il se baladait, il parlait. Alors, il n'a pas un discours très fourni, il a un peu de mal à raconter des histoires, il n'accède pas au second degré. Bon, je ne vais pas passer une soirée avec lui devant devant une série comique ou devant un Monty Python, mais on fait des choses ensemble et cet enfant, en tout cas, est heureux et il évolue.
Quelle est votre routine, justement, au quotidien avec lui ?
La routine d'un papa et d'une maman. Alors nous, d'abord, on est un couple qui n'a pas divorcé, ce qui n'est pas le cas de tous les couples. Hein, 80% des couples divorcent. Nous, on s'est battu, ma femme s'est arrêtée de travailler, puis s'est mise à retravailler, puis s'est réarrêtée, puis à retravailler. Bon, elle s'est un peu sacrifiée. Aujourd'hui, elle a une belle carrière. Hein. Elle est directrice de la communication de France Parkinson. Vous voyez, elle est sur le neurodégénératif. Moi, je suis sur le neurodéveloppement. On est aux deux bouts de la chaîne. Donc, elle a repris. Donc, on peut reprendre. Mais pendant plusieurs années, son parcours à elle a été un peu haché. Le mien, bah, c'était aussi de boucher les rustines et de soulager la maman quand c'était trop dur. Donc notre routine, c'était une heure pour lui brosser les dents le matin, trois quarts d'heure pour l'amener à 100 mètres de la maison, être obligé d'aller rechercher en pleine journée quand il y avait une crise, trouver remplir des dossiers avec la maison du handicap, se battre pendant 8 ans pour qu'il croque dans une banane. Non, non, c'est vraiment, on attaque l'Everest en tongs. Hein. C'est dur, mais avec beaucoup de persévérance, un peu de chance aussi, parce que si vous tombez sur un profil trop dur, bah, peut-être qu'il ne se passera rien. Ils sont tous très différents. Il n'y a pas un autisme, des autismes. Mais techniquement, si vous vous accrochez, vous le faites progresser. Alors après, jusqu'où, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut toujours dire qu'il y a toujours un progrès, il y a toujours quelque chose à gagner.
Vous êtes justement très engagé avec Autisme Info Service, dont vous êtes le président. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cet engagement ?
Alors, j'en suis le co-président avec Samuel Le Bihan. On a créé ça, alors c'est une idée originale de Florent, donc de moi, mais c'est grâce à Samuel en fait que ça s'est fait. C'est-à-dire que j'avais eu l'idée, et puis un jour j'en parle à Samuel et il me dit « Allez, banco, on le fait ». Je lui dis « Mais il nous faut des sous ». Et il nous dit « Allons voir la Fondation Bettencourt-Schouler ». Et puis après, on a vu la Fondation Orange, Fondation Michelin. Et tous ces gens-là, bout à bout, nous ont aidés à monter cette plateforme qui aujourd'hui est prise en charge par l'État. Mais 5 ans, 48 000 personnes plus tard, on a 50 000 visites par mois. Hein, donc il y a une très 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 forte demande. Les associations n'arrivaient pas à combler cette demande, les centres de ressources autisme non plus. Bah, nous, on répond aux questions, on est l'épaule pour ces parents, on les accompagne dans leur parcours parfois dur. Mais on est là, voilà, un phare dans la nuit, c'est nous. Et je suis très très content qu'avec Samuel, on ait réussi à créer cette plateforme et à faire qu'aujourd'hui, toute personne qui veut avoir une information sur un traitement, une approche, quel type de psychologue il faut aller voir, dans quel centre, avec quelle fréquence, qu'est-ce que disent les recommandations de bonne pratique, comment je fais pour forcer l'école à prendre mon enfant, parce que parfois il y a des écoles qui sont réfractaires, et ben nous on est là pour répondre, aider, accompagner. On ne se substitue pas, mais on accompagne.
Dans le cadre de cet accompagnement, vous avez accès à certaines données et vous vouliez parler des avancées de la recherche de l'autisme en France notamment.
Oui, alors grâce à la Fondation Fondamentale notamment, hein, je me souviens d'une discussion que j'avais avec Marion Le Boyer il y a bien des années avec le professeur, où je lui parlais de choses qu'on constatait, parce que les parents sont au contact 24 heures sur 24 de leurs enfants, hein, ce qui n'est pas le cas des soignants, sauf quand les enfants sont en centre. Mais globalement, un psychiatre, il voit 15 minutes l'enfant, il ne le voit plus. Nous, on le voit du matin au soir, donc quand il a des rougeurs, quand il a des coliques, quand il pousse des cris, on sait pourquoi, la lumière, le bruit extérieur, quelque chose qu'il mange, une sensation, on voit tout, on entend tout. On est quand même les premiers aux côtés de nos enfants. Et ben, un jour, on s'est rendu compte que potentiellement, l'alimentation de nos enfants pouvait avoir un certain effet sur son microbiote. Donc, il était moins constipé ou il avait des selles différentes ou manifestement, ça agissait sur le comportement. C'était des données non consolidées, des observations de parents. Mais ça a, j'espère, je crois, mis Marion Le Boyer sur la piste du microbiote. Et depuis, c'est un de ses succès. Et ça, c'est effectivement d'abord une constatation de parents. Alors après, quel traitement, à quelle fréquence, comment, ça, au médecin de le faire, et puis dans le cadre de protocoles randomisés. Mais par contre, le parent puisse dire « Ah oui, mais non, la lumière, ça provoque des cris, ça, ci, ça, ça. » Voilà, on est quand même les premiers observateurs. Donc, voilà. Et le deuxième observateur, c'est notre plateforme. Parce que nous, avec 48 000 personnes au téléphone, on a des données sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, les blocages institutionnels, les frustrations des parents, les attentes. Ouais, on observe bien.
Pourquoi pensez-vous que l'autisme est souvent très difficile à détecter ?
Maintenant, il n'est pas difficile à détecter. Il l'est quand on nie l'autisme. Après 40 ans de psychanalyse, oui, on est un peu passé à côté de l'autisme en France, mais il n'est pas si difficile que ça à détecter. Le truc, c'est qu'un psychiatre qui voit un enfant 15 minutes, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 15 minutes. Si. Un jour, je me souviens, le psychologue voyait mon enfant, il était enrhumé. Et ben, il était tout sage, il était assis, il ne disait pas un mot. Il m'a dit, mais il est tout mignon, votre petit bonhomme. Alors que d'habitude, il cassait tout, il criait, il arrachait les papiers peints. Bah ouais, s'il ne le voit pas au bon moment, qu'il n'y a pas une crise à ce moment-là, voilà, vous pouvez passer à côté. Donc, il faut écouter les parents, hein, sont quand même des gens qui comptent. Hein, rien ne se fait pour nous, sans nous. Et après, si les parents ont une suspicion, et aujourd'hui, le dépistage systématique de l'autisme va rentrer dans les carnets de santé, hein, c'est très récent. Donc les médecins généralistes auront à remplir une petite grille et quand ils auront rempli la grille, ils diront bah, manifestement, il y a quelque chose. Et plus on prend tôt, mieux on traite.
Quelles ressources ou organismes avez-vous trouvé les plus utiles pour offrir à votre enfant un parcours inclusif?
J'aurais bien aimé avoir Autisme Info Service. Les associations de patients. Hein, vraiment. Et nous, on ne se substitue pas au terrain, aux gens qui sont au contact. Mais les associations de patients m'ont sauvé, entre guillemets, hein. L'écoute de parents, les groupes d'habilité, les week-ends à la campagne où normalement bah, vous n'avez plus trop le droit de venir avec votre enfant parce que bah, il dérange le pique-nique ou il casse tout. Et bah là, l'avantage, c'est quand vous avez que des enfants autistes, bah, ils jouent ensemble et puis les parents sourient quand quelque chose se casse. Donc ça crée du lien, ça donne confiance. Vous voyez des enfants progresser, ils vous donnent des pistes, des solutions. Les associations de patients dans l'autisme sont vraiment très, 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 très importantes.
Une dernière question, quelles sont les particularités de l'autisme à l'âge adulte? Est-ce qu'il y a des changements?
Alors, il y en a. Bon, déjà, il y a la barrière de l'adolescence hein, qui vaut pour tout. Hein. Les enfants, quand ils ont 12, 13, 14 ans, ils muent, ils grandissent, on va vers la sexualité. Forcément, il y a besoin d'autonomie, mais ils n'en ont pas, donc ils en veulent quand même. Donc, bon, donc c'est compliqué. Disons qu'avec un enfant typique, c'est dur. Avec un enfant atypique, c'est très dur. La deuxième chose, c'est que, et ça, il faut bien le comprendre, l'autisme, alors il y a ce qu'ils appellent des autismes régressifs, des enfants qui progressent, puis qui voilà, mais comme à la limite, quelqu'un, un enfant à qui on fait beaucoup lire quand il est enfant, et puis à l'âge adulte, on le prive de livres, et ben, il va lire moins bien quand il sera âgé. Donc je veux dire, l'apprentissage, il est permanent. Hein. C'est un principe, la courbe d'apprentissage, il faut tout le temps apprendre. D'ailleurs, on le voit dans le neurodégénératif, si on ne lit plus, ben, à un moment donné, on perd la mémoire, on perd le sens des mots. Quelque part, il faut tout le temps muscler son cerveau. Donc un enfant autiste, si vous ne le prenez pas en charge tôt, vous ne lui faites pas une éducation intensive comportementale, ben, la courbe de développement va s'arrêter et elle va avoir tendance pour eux peut-être même à plutôt dégringoler un peu plus vite. Alors ça, je le dis, c'est pas sur la base d'études publiées, hein, mais puisqu'ils ont plutôt des difficultés, ils vont avoir tendance à revenir et à se réinstaller un peu plus vite. Hein. Un enfant facile, bon bah, on arrête de lui apprendre des choses, ça reste un peu, quoi, c'est en roue libre. Donc oui, il faut vraiment, la haute autorité de santé dit 25 heures de prise en charge par semaine, intensive, quand la maison du handicap donne 6 heures, 12 heures, et derrière, il n'y a pas un éducateur spécialisé pour prendre le relais, bah, l'enfant va progresser lentement. C'est 25. Moi, on m'a dit, 25 heures, il progressera votre enfant. J'ai dit, et si je mets 50? On m'a dit, bah, il progressera plus vite que prévu. Bah, donc, il a eu 50 heures d'accompagnement par semaine, y compris des accompagnements le dimanche. Donc, moi, on m'a dit, votre enfant est condamné, hein, il ne parlera jamais, il est foutu, faites le deuil de votre enfant. J'ai pas fait le deuil et maintenant j'invite tout le monde à se battre et en lui ordonnant une éducation adaptée et de l'amour, mais ça tous les parents le feront et ben ils progresseront. À l'âge adulte toujours, ils ont besoin d'accompagnement, c'est pour ça que à 30 ou 40 ans, s'ils sont encore en difficulté, qu'ils manquent d'autonomie et vous ne les aidez pas, et ben ça va un peu redescendre, c'est pas bon. Donc eux ont plutôt besoin de ce qu'on appelle les special needs, de besoins spéciaux toute leur vie.
Merci beaucoup Florent Chapelle. We'll be right back.